Radio Okapi. Grande interview.
Il a déposé deux requêtes en inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle contre la machine à voter et la non-inscription des Congolais de l'étranger sur les listes électorales. Maître Jean-Marie Kabengela, avocat au barreau de Kinshasa Matete, ancien membre du Conseil de l'Ordre et doyen honoraire du même Conseil, et aussi analyste des questions juridiques et entré aux droits de l'homme, est l'invité de grande interview. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Maître Jean-Marie Kabengela, bonjour.
Bonjour, monsieur Alain.
Comment allez-vous ?
Bien, et vous-même ?
Oui, ça va très bien, merci. Maître, vous avez déposé, mercredi 5 septembre dernier, deux requêtes en inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle contre la machine à voter et la non-inscription des Congolais de l'étranger sur les listes électorales. Dites-nous, quelle est l'opportunité d'une telle démarche ?
L'opportunité de ma démarche, c'est ramener le fonctionnement des institutions de notre pays dans la légalité, dans l'observance des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires. Après avoir lu les décisions de la CENI, notamment celles portant mesures d'application de la loi électorale, je me suis avisé de constater que la CENI, contre des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, introduisait l'usage de la machine à voter. Et que cette façon de faire ne respectait pas la Constitution et n'était pas conforme aux lois de la République. Alors que l'article 62 de la Constitution impose à ce que toute personne, physique ou morale, de droit public ou privé, respecte la Constitution et se conforme aux lois de la République. Raison pour laquelle, quand je constatais que la décision de la CENI était en conflit avec les dispositions constitutionnelles, j'ai choisi la voie de la justice pour que la Cour constitutionnelle puisse déclarer la décision de la CENI portant mesures d'application de la loi électorale, notamment les articles 62 et suivants de sa décision, non conforme à la Constitution. Et surtout que, après avoir lu le calendrier électoral, j'ai trouvé au point 38 à 40 du calendrier que le 20 septembre de l'année en cours, la CENI devrait s'adonner aux travaux pratiques de confection de bulletins papier. Et nulle part dans le calendrier de la CENI, nous trouvons une rubrique consacrée à la commande de machines à voter.
Maître, commençons par la non-inscription des Congolais de l'étranger sur les listes électorales. Est-ce que dans la pratique, c'est possible? La CENI a dit qu'elle n'avait pas les moyens pour ça. Est-ce qu'elle n'a pas raison?
La CENI a commencé par commettre une infraction appelée abstention coupable, en ce que, selon son calendrier, du 3 novembre au 31 janvier 2018, la CENI avait arrêté l'identification et l'enrôlement des électeurs, écartant l'enrôlement et l'identification des Congolais vivant à l'étranger. Vous trouverez dans le calendrier
d'office,
la CENI avait écarté. Et la loi qui vient comme une couverture pudique à cette infraction ne vient que en juin 2018 pour couvrir. Et cette loi-là, il n'y a qu'une seule disposition qui dit que les Congolais de l'étranger ne pourront pas être identifiés et enrôlés pour les élections en cours. C'est déjà un déni de justice. Or, l'article 13 de la Constitution dit que aucun Congolais ne peut faire l'objet de discrimination, notamment en raison de son lieu de résidence. Et je considère pour ma part que la discrimination que la CENI venait de créer à l'endroit des Congolais vivant à l'étranger, cette discrimination a pour justification leur lieu de résidence, ce qui est en conflit avec la disposition de l'article 13 de la Constitution. Pour cette raison, nous demandons à ce que la loi, cette fois-ci j'attaque la loi de juin 2018, qui écarte les Congolais vivant à l'étranger des processus électoraux, notamment l'élection présidentielle, que cette loi soit déclarée inconstitutionnelle.
La CENI, comme je l'ai dit, a évoqué des questions pratiques, de logistique, des moyens. Et vous pensez que ça pourrait être quoi la vraie raison, des raisons politiques?
Ce sont des raisons politiques. On sait que le pouvoir en place, c'est que les Congolais vivant à l'étranger ont une culture politique un peu très avancée et qu'ils ne peuvent jamais voter pour le pouvoir en place. C'est des calculs politiciens qui ont justifié la discrimination faite aux Congolais vivant à l'étranger. Il n'y a pas question de moyens, parce que le moyen, la CENI vient de créer des dépenses qui n'étaient pas prévues, ni par la Constitution, ni par la loi, moins encore par le règlement, notamment la commande des machines. C'est beaucoup d'argent, plus que ce qui aurait été exposé pour identifier et enrôler les Congolais de l'étranger.
On l'a dit dans cette émission plusieurs fois, Maître Jean-Marie Kabengela, la CENI soutient que sans machine à voter, il n'y aura pas élection. Elle a passé une commande d'un très grand lot de ces machines qui doivent arriver pour les prochaines élections. Qu'est-ce qui va se passer?
La CENI est invitée à observer d'abord son propre calendrier. Sauf si la CENI dit au peuple congolais que le calendrier qu'elle avait publié était une sorte de trompe-vigilance et que ce calendrier-là ne correspondait pas à la réalité. Or, en respectant le calendrier, les élections se tiendront bel et bien à la date. Mais ce qui pourrait alourdir le processus électoral, c'est la commande de la machine à voter. Parce que nulle part dans le calendrier, on trouve à quelle date on va insérer l'usage de la machine à voter, même pas la commande. Donc, toute chose restant égale par ailleurs, pour toute personne rationnelle, moyen, lorsqu'il y a un élément de plus qui s'ajoute dans un calendrier, c'est cet événement non prévu dans le calendrier qui alourdit la tenue et non le respect de l'agenda tel qu'il a été tracé. Donc, la CENI prêche contre son propre calendrier parce qu'en suivant, nous ne voyons pas à quelle date il y aurait commande des machines à voter.
Radio Okapi. Grande interview.
Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, ancien membre du conseil de l'ordre et doyen honoraire du même conseil, et aussi analyste des questions juridiques et entré aux droits de l'homme, et l'invité de grande interview. La CENI a évolué dans son explication et elle parle de plutôt machine à imprimer que machine à voter. Et dans plusieurs débats que nous avons eus sur les antennes de Radio Okapi, il est très difficile aujourd'hui, maître, de déterminer le mode de scrutin. Est-ce un mode électronique, manuel, semi-électronique? Même la loi électorale n'est pas très claire à ce sujet.
Il s'agit bel et bien de mode électronique. Et je vais, avec votre permission, passer à la lecture d'une des clauses de la décision de la CENI sur la machine à voter. Mais bien avant, nous devons nous aviser que la loi électorale, certes, au niveau de l'article 47, prévoyez deux modes de vote. D'une part, vote à bulletin papier et d'autre part, le vote électronique. Ce qui est important à noter, c'est que l'article 237 de la même loi dit que pour les élections en cours, il n'y aura pas usage des procédés électroniques. La modification de la loi électorale du 24 décembre 2017 a modifié beaucoup de dispositions, mais n'a pas modifié les articles 47 et 237, ce qui veut dire que pour les élections en cours, ici, on ne pourrait pas procéder au mode électronique de vote. Alors, comme j'ai promis, voici ce que dit l'alinéa 3, et je souhaite que vos auditeurs prêtent l'attention pour comprendre que on dit une chose, mais en réalité, c'est une autre. L'article 62, alinéa 3 de la décision de la CENI portant mesure d'application de la loi électorale, il est dit ceci: l'électeur effectue son choix sur l'écran tactile en touchant sur la photo de son candidat. Pour retrouver facilement son candidat, l'électeur peut effectuer la recherche en tapant le numéro d'ordre du candidat souhaité en utilisant le pavé numérique. Le pavé numérique. Il a également la faculté de s'abstenir de voter pour un candidat quelconque de la liste. Dans ce cas, il appuie sur le bouton vote blanc. Monsieur Alain, combien de Congolais maîtrisent ce procédé? Lorsque vous parlez de pavé numérique, vous parlez de quoi? N'est-ce pas un procédé électronique? On veut tromper qui? Mais le problème de la machine à voter, ce n'est même pas un problème juridique, un problème politique, mais c'est en réalité un problème de deal. L'argent est sorti. Et vous connaissez, dans notre pays, lorsqu'il y a des commandes, il y a des commissions à tous les niveaux. Mais comment justifier l'argent qu'on s'est déjà distribué? Si la machine pouvait coûter 100 millions, mais vous en avez sorti 200 millions. Mais pour que justifier les 200 millions, il faut que l'objet pour lequel le 200 millions, y compris les commissions, était sorti, soit là. Mais je pense que les décideurs, les membres de la CENI, ainsi que tous ceux qui sont intervenus dans la chaîne de dépenses, dans l'achat de, pour l'achat de machines à voter, peuvent, même s'ils acquéraient ces machines, mais ça peut servir pour le prochain scrutin, pas pour le scrutin en cours, parce que l'article 237R interdit l'usage du vote électronique pour les élections en cours.
Maître, vous avez introduit ces requêtes à la Cour constitutionnelle. On a suivi les derniers arrêts de la Haute Cour. À quoi devez-vous vous attendre?
Bon, la Cour est mise à l'épreuve pour donner au peuple congolais l'occasion de savoir si ces juges sont indépendants. Ça c'est dit. Trois des juges qui venaient de rejoindre la Cour constitutionnelle, l'un est le conseiller juridique du chef de l'État, l'autre membre cofondateur du PPRD, et l'autre qui était toujours dans ses fonctions en tant que proche du PPRD. Tout ça, ça pose problème. Il n'y a pas eu de transition entre leur qualité de conseiller juridique du chef de l'État, de membre du PPRD. Il n'y a pas de transition pour aller à la Cour constitutionnelle. Donc, ils vont avec le même esprit. Et là, le peuple congolais est en droit d'attendre de la preuve de leur indépendance et de leur impartialité.
Vous êtes le premier, maître Jean-Marie Kabengela, à mener une telle démarche officielle. On entend les opposants crier qu'ils ne veulent pas de la machine à voter, mais personne n'a mené encore une telle démarche. Mais entre-temps, la CENI qui continue à soutenir l'usage de la machine à voter, la classe politique divisée à ce sujet, il n'y a pas de consensus. Quels sont les préalables pour un processus électoral apaisé selon vous?
Le processus électoral apaisé doit se mener sur base de textes constitutionnels, légaux et réglementaires en vigueur. En droit public et particulièrement en droit administratif, il est un principe cher qui dit que, en cette matière-là, la compétence est d'attribution. Lorsque la CENI prend une décision portant mesure d'application d'une loi, elle doit nous dire, la machine à voter qu'elle introduit dans sa décision tire sa source de quel texte constitutionnel, légal ou un autre texte réglementaire. Quand vous dites, j'applique, je prends la mesure d'application, vous devez dire, telle structure a été prévue par tel texte légal et voici comment je l'applique. Ce qui n'est pas le cas dans l'espèce. La machine à voter est une invention purement de la CENI. Or, en tant que mesure d'application, la CENI ne pouvait que expliquer, mettre en pratique les dispositions constitutionnelles et légales. Pour avoir inventé l'usage de la machine à voter, qui n'est prévu nulle part dans la Constitution ni dans la loi électorale, donc cette décision pense, sauf si la Cour constitutionnelle nous donnait encore la preuve qu'elle n'est pas là pour contrôler la constitution des actes législatifs et réglementaires, mais je crois bien que nous avons beaucoup de chances d'être suivis.
Il y a plusieurs politiciens qui demandent qu'il y ait un dialogue pour que la classe politique puisse lever une option claire autour de la machine à voter. La SENCO, en son temps, a proposé la certification de ces machines. Quelle est la meilleure démarche, selon vous?
La meilleure démarche, c'est de se concentrer, de respecter la Constitution. C'est l'article 63 de la Constitution. Donc, vous devez vous conformer à la Constitution. Même si toute la classe politique se retrouvait aujourd'hui, tant que la loi, l'article 237 de la loi électorale, dit qu'il n'y aura pas lieu à application, à faire usage de la machine à voter, les politiciens, quand ils vont se retrouver, ils doivent, s'il y a un consensus, on doit réviser ou modifier la loi électorale, notamment l'article 237 qui interdit l'usage de la machine à voter pour donc, le vote électronique pour le processus en cours.
Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, ancien membre du Conseil de l'Ordre et doyen honoraire du même conseil et aussi analyste des questions juridiques. Aujourd'hui, maître, on a l'impression, en scrutant la société congolaise ou l'histoire de la RDC, que les Congolais ont l'habitude, à côté des lois de la République, à côté de la Constitution, ont l'habitude de mettre sur pied des accords. On a par exemple l'accord de la Saint-Sylvestre qui à un moment a même concurrencé la Constitution. Il y a une frange de la classe politique qui pensait qu'il fallait se référer à l'accord, une autre à la Constitution, une autre aux deux. Finalement, dans ce mélange, qu'est-ce qui devrait être fait pour que chaque chose reste à sa place?
Ce qui devrait être fait, c'est scruter l'esprit des lois, l'esprit de la Constitution.
Si évidemment on est de bonne foi.
Donc oui. Donc cette constitution a été prise, adoptée pour régler la question des crises de légitimité dont souffraient les institutions et leurs animateurs. Je dois vous avouer en tant que juriste que la nature juridique de l'accord de la Saint-Sylvestre était un acte purement politique parce que ce n'était prévu par aucun texte. Et ce qui était là, personne ne tirait sa qualité des textes constitutionnels ou légaux. Alors, lorsque les gens sont animés par cet esprit, ils vont comprendre tout le reste. Comment on règle la question des crises de légitimité sur la personne du chef de l'État, président de la République? Dans l'esprit de cette constitution, un individu ne peut prétendre exercer le mandat présidentiel que une fois, 5 ans, renouvelable une fois. Même s'il arrivait la modification de la Constitution, c'est ça l'esprit, parce que ceux qui avaient confectionné l'accord de Saint-City avaient pris en compte les crises récurrentes dont souffrait la République. C'était le fait de bloquer le pouvoir entre ses mains, et pour y quitter, il faut toujours recourir aux armes. On a considéré comment Mobutu a accédé au pouvoir, on a considéré comment Musée Laurent-Désiré Kabila avait accédé au pouvoir, et puis, on a considéré aussi comment Joseph Kabila a accédé au pouvoir. Ce n'était pas lui, suivant les dispositions constitutionnelles alors en vigueur, qui devrait remplacer M. Laurent-Désiré Kabila. Donc, toutes ces manières-là, selon l'esprit du constituant, il fallait mettre fin, donner à un individu toute sa vie la possibilité d'exercer la fonction du président de la République pendant 5 ans, renouvelable une seule fois. Un point, un trait.
Vous savez aussi dans l'actualité, c'est cette publication du professeur Eugène Bagnacou, ancien juge de la Cour constitutionnelle, qui a publié un ouvrage intitulé « Quelques questionnements sur la procédure devant la Cour constitutionnelle, esquive judiciaire ou délicatesse politique face aux besoins de justice des citoyens congolais ». Le professeur Bagnacou s'est exprimé notamment sur les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle et a estimé notamment qu'il ne revenait pas à la CENI ni à la Cour constitutionnelle de qualifier les infractions imputées au candidat président de la République. Selon lui, cette prérogative est réservée à la Cour de cassation.
Moi, je parle ici scientifique. J'ai dit, la CENI n'a pas compétence de qualifier une infraction. S'il y a, au-delà des documents, une confusion, par exemple, entre subornation et corruption. Ce n'est pas puisque vous avez un conseiller juridique que vous dites que vous devenez ministère de la justice. Je crois qu'il faut requérir des avis autorisés. Mais lorsqu'il y a une confusion au niveau de la CENI, on n'est pas sûr que cette infraction correspond à cette autre, que le viol n'est pas vol, C'est une institution de l'État qui doit demander à une autre institution qui a compétence et ne peut qualifier l'infraction dans les cas d'espèce que la Cour de cassation, à mon avis. Ce n'est pas le rôle de la Cour constitutionnelle. Il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle ni à la CENI de qualifier une infraction. La Cour constitutionnelle ne fait pas l'interprétation des lois. La Cour constitutionnelle fait l'interprétation des dispositions constitutionnelles. Mais il voit alors l'inconstitutionnalité des lois. C'est deux choses.
Quel est votre avis? Mon avis n'est pas loin de celui de professeur Banyaku. Nous avons suivi l'arrêt, mais cet arrêt, même la décision de la CENI, ont été précédés par un point de vue doctrinal, entre guillemets, émis par le professeur Nyabirungu, qui a pensé, pour sa part, que la subornation des témoins était une forme de corruption. Et lorsque on lui posait beaucoup de questions, il disait que, pour bien comprendre sa thèse, il ne fallait pas se limiter au droit pénal congolais, il fallait aller dans des sources supranationales. Mais c'est lui qui a induit la CENI et la Cour constitutionnelle en erreur.
Donc il a conditionné la Cour et la CENI.
Il a conditionné la Cour. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas appliqué la méthode d'analyse évolutive des textes juridiques. S'il avait appliqué cette méthode, il comprendrait que la subornation des témoins ne peut pas être considérée comme corruption. En effet, 2003, il y a la Convention de l'Union africaine qui lutte contre la corruption. Au sein de ce texte, la différence est faite entre la corruption et la subornation des témoins. 2004, Convention des Nations Unies contre la corruption. Vous trouvez d'une part la corruption et d'autre part la subornation des témoins prévue par l'article 25. Avec ces deux textes, 2003-2004, le législateur congolais, en 2005, date ce code pénal congolais en insérant, en faisant la distinction entre la corruption et la subornation des témoins. Ça, c'est 2005. 2006, le législateur congolais adopte la loi électorale. C'est très important. Et lorsqu'il adopte la loi électorale, le législateur congolais a devant lui ces différents textes qui prévoyaient, d'une part, la corruption, et d'autre part, la subornation des témoins. Le législateur électoral se pose la question des conditions d'inéligibilité qu'il fallait retenir. Devant la corruption et la subornation des témoins, le législateur électoral congolais choisit la corruption et met de côté la subornation des témoins. Donc le choix du législateur électoral congolais est pris donc, en prenant connaissance de ses engagements internationaux et au regard du code pénal congolais. Donc, le professeur Nyabirungu avait induit déjà la CENI en erreur. Parce que la personne qui était visée, c'était la personne de Jean-Pierre Bemba. Et la Cour suprême a suivi. Et la Cour constitutionnelle a suivi. Mais il y a un problème. Lorsqu'il y a des doutes sur la compréhension de la sentence de la Cour pénale internationale, est-ce que c'est à la Cour constitutionnelle de comprendre la teneur de la sentence de la Cour pénale internationale? Moi, je pense que là, il y avait question de demander l'interprétation. Étant donné que la Cour pénale internationale n'a pas encore vidé toute sa saisine, parce que là, il y a deux branches. Il y a la branche de reconnaissance de culpabilité, d'une part, et d'autre part, il y a la branche de détermination de peine. Est-ce qu'un juriste bien averti, tant que ces deux branches n'ont pas été vidées, peut parler de l'irrévocabilité d'une sentence? Disons non. Nous disons non. Donc on est allé plus vite. Mais je tiens avec la loi électorale que s'il y a quelque cause d'inéligibilité qui viendrait se révéler même après mandat, il est prévu que l'individu, même en plein exercice du mandat, peut se voir invalidé. Donc, vous êtes élu, mais vous perdez le mandat. Pourquoi la Cour constitutionnelle est allée vite en besogne?
Pour des raisons politiques?
Pour des raisons politiques.
Portrait.
Kabingela Ilunga Jean-Marie est licencié en droit de l'Université de Kinshasa, avocat au barreau de Kinshasa Matete, doyen honoraire du Conseil de l'Ordre du Barreau, avocat à la Cour pénale internationale. Il a eu à défendre Archbishop Coutinho Fernando, Gabriel Mokia, Jean-Pierre Bemba en 2006 contre Kabila, Vital Kamere en 2011 contre Kabila, avocat de Thérèse Kapangala tuée par la police en janvier 2018, de Rossi Chimanga Chebeya, tués en février 2018, de Floribert Chebeya et de Philette Bazana, tués en 2010, de Martin Fayoulou, arrêté à la DEMIAP, de Franck Diongo, Bertrand Ewanga, Martin Mukonkole, Roger Lumbala, les ressortissants de l'Équateur pour mouvement insurrectionnel, avocat des habitants du quartier Matadi-Sifourko à Massina contre la RVA, avocat des magistrats contre une loi injuste qui faisait de la prise à partie et motif des révocations.
Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, l'émission est en train de se terminer. Un mot à tous ces millions de Congolais qui vous suivent au pays et à l'étranger.
Je dis à tous nos compatriotes, au-delà des réclamations politiques, diplomatiques, moi j'ai choisi la procédure judiciaire. Faisant confiance aux animateurs de notre corps constitutionnel, que j'ai invité à lire attentivement la décision de la CENI portant mesure d'application de la loi électorale, et constater avec moi que cette décision, en tant qu'acte réglementaire, viole les dispositions pertinentes de la Constitution, en ce qu'elle introduit la machine à voter qui n'est pas prévue par la Constitution, par les lois de la République, qui n'est pas non plus prévue par le calendrier. Et donc c'est la CENI qui veut alourdir la tenue des élections parce qu'elle intègre dans le calendrier un événement qui n'a pas été initialement prévu.
Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, merci d'être passé à Grande Interview.
Merci, Alain.
Grande Interview, c'est fini pour aujourd'hui. Supervision, Tina Salama, Jean-Noël Mokondo et Bob Landou étaient à la technique. Présentation et coordination, Alain Roung-Mouchige. Merci de votre attention. Au revoir.